Radio Canal Sud 92.2, 40 rue Alfred de Miril, numéro de téléphone 05 61 53 36 95 pour l'antenne. Et pour le bureau,
c'est le 05 61 25 95 43.
Voilà. Canal Sud 92.2. Voilà.
Et voilà. Merci JP pour ce super jingle. Et donc on reçoit des personnes du collectif Nevar Neyok qui viennent nous parler un peu de la situation en Turquie aujourd'hui et sur les deux dernières années, on va dire. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors c'est quoi Nevar Neyok ?
Du coup, bah, c'est un collectif. Ouais. Qui existe en fait, qui a existé après qu'on soit parti avec deux membres du collectif. On a fait deux séjours en Turquie et on s'est dit en fait que là-bas il y avait un mouvement de lutte qui se menait depuis quelques temps et on a voulu contribuer. Alors en rentrant, on s'est dit qu'il faudrait que on mette en ligne et qu'on informe les gens d'ici par les entretiens qu'on a fait là-bas, par les vidéos, la musique, et voilà, ça a commencé comme ça. Et par la suite, là, on nous a donné l'idée qu'avec tous ces entretiens qu'on avait, on pouvait sortir un livre.
Okay.
Du coup, on a édité un livre chez Niat Édition, et qu'on présentera tout à l'heure.
Ouais. Et du coup, là, Nevar Neyok, c'est un blog aussi.
Oui, c'est un blog. Donc je sais pas si je le donne de suite directement.
Bon, tu peux. Ouais.
Du coup c'est Nevar, ça s'écrit nevarneyok.noblogs.org. Parfois ça marche pas si on est sur free, mais ça peut marcher quand même à force. Voilà.
Faut insister. Ouais. Et ça veut dire quoi, Nevar Neyok?
Ça veut dire en vrai, si je traduis littéralement, ça fait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas. C'est un peu pour dire quoi de neuf, quoi.
Ok.
Voilà.
D'accord. Et du coup, vous êtes parti en Turquie, c'était quand ça ?
On est parti une fois pendant le printemps 2015, juste avant les élections pour le Parlement.
Législatives,
ouais. Et ensuite, on est parti une seconde fois à la fin 2015, en décembre, là où en fait l'État turc a commencé à mettre plein de couvre-feu du côté des villes kurdes.
Juste avant, il y avait eu d'autres élections du coup depuis. C'était juste avant. Parce qu'il y a eu des élections en juin et qui n'ont pas plu à Erdogan,
voilà,
et
ouais,
puis ça a été,
ouais,
il y a eu, ouais, des élections à nouveau, mais du, ouais, coup. Vous êtes
le 1er novembre.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Du coup, vous êtes arrivé après ça,
ouais,
en fait, la,
ouais,
deuxième fois. Ok. Et du coup, ces entretiens qu'on peut retrouver dans ce livre qui s'appelle
Sereldan, qui veut dire on baissera pas la tête. Et ça s'appelle Le soulèvement au Kurdistan, parole de celles et ceux qui luttent pour l'autonomie.
D'accord. Et c'est des gens que vous avez rencontrés là-bas
Oui. Enfin, une bonne partie, c'est nous qui avons. Enfin, on a réalisé nous-mêmes ces entretiens avec des personnes qu'on a rencontrées là-bas. Et après, il y a quelques entretiens en plus qu'on a récupérés sur Internet, traduits. En gros, c'était pour donner un espèce d'aperçu de la lutte, tout le mouvement au Kurdistan de Turquie. Et en donnant la parole directement aux premiers intéressés, et pour pas se risquer à faire des analyses un peu rapides.
Parler à la place des gens.
Ouais, c'est pas sûr.
Et ces gens, c'est qui en fait? Enfin, je vais pas demander des noms à des états civils, mais, mais quel type de gens vous avez rencontrés du coup?
Mais ça peut être en fait des personnes qui luttent auprès du HDP, ça peut être des personnes qui font partie des YDGH. Alors du coup, attends, faut dire les sigles, tous ces sigles. Donc le HDP, en fait, c'est le parti pro-kurde c'est le parti pro-kurde qui est du coup légal, mais qui en ce moment se retrouve en prison, mais ça on en parlera encore tout à l'heure.
Ouais.
Ensuite, les YDGH, c'est un groupe
d'autodéfense, en fait, des jeunes des quartiers.
Mais qui n'est pas du tout légal.
D'accord.
Du coup, en vrai, tous les gens qu'on a rencontrés, c'est des gens qui participent de près à la lutte qui se passe là-bas, en fait.
Sachant que au Kurdistan de Turquie, il y a beaucoup de gens qui participent de près au mouvement. Enfin, c'est des millions de personnes, en fait, qui participent. Qui participent à la lutte pour l'autonomie, la liberté et pour que l'État turc arrête de les emmerder, en fait.
Mais c'est juste un exemple que je donne souvent, juste pour illustrer. On a rencontré par exemple une famille. Dans la famille, il y a la mère, en fait, qui fait partie des groupes de mères qui luttent ensemble. Il y a simplement le père qui ramène de l'argent à la maison et du coup lui qui regarde et qui est hyper intéressé par la situation. Un des frères qui lutte, dans son quotidien, aller dans les manifestations, elle est toujours au courant de ce qui se passe, de la petite jeune qui est toujours aussi au courant des choses, d'une des sœurs qui a été guérilla, quoi, qui est au Rojava en ce moment, et un autre, on sait pas trop, mais voilà.
Il y a plein de niveaux de lutte, quoi, en fait.
Voilà, c'est un peu ça, quoi.
Ouais.
Du coup, c'est un peu ces gens-là qu'on a voulu interroger.
Ouais.
Après, c'est assez facile d'interroger ou faire des entretiens avec les gens là-bas, parce qu'en fait, tout le monde parle de politique tout le temps. Même ils en sont à un point où ils disent, en rigolant, il y a « Ah, ce serait bien qu'on arrive à parler d'autre chose, mais on n'y arrive pas, ça fait 30 ans qu'on parle que de ça tous les jours. » Et du coup, tu vas boire un thé, tu parles avec le marchand de journaux, tu vas à une manifestation, tu prends un petit taxi, tout le monde... Tout le monde va te parler de politique ou de philosophie, ou de etc. Tout le monde va être assez curieux de ce qui se passe chez toi. Et voilà, et souvent c'est des discussions politiques assez poussées, quoi.
Ouais, tout le monde est assez politisé, quoi.
Ouais.
Oui, même les enfants, à partir de 12 ans, tu peux avoir des très longues discussions assez poussées avec des gamins de 12-13 ans.
Ouais.
On en a beaucoup moins par ici.
Ça doit faire un peu bizarre, ouais, c'est ce truc-là. Mmh. Ouais. Et du coup, vous avez vu quoi là-bas, justement, au niveau de la lutte, quand vous êtes allé sur place? Donc, c'était l'année dernière, ça, c'était 2015, c'est ça?
Ouais.
En
fait, nous, au début, on est arrivé par une délégation avec laquelle on a pu rencontrer les différents partis, les groupes de femmes, les groupes écologistes, le groupe LGBTI, avec lesquels, en fait, ensuite, on a voulu les rencontrer nous-mêmes pour avoir un peu plus de rencontres et de comprendre, en fait, ce qu'ils faisaient, eux, comme lutte au quotidien. Et à partir de là, en fait, c'était vraiment le moment où il y avait, en effervescence, quoi. C'était là où tout commençait, où tout était en train d'être repensé, de faire, par exemple, je sais pas, le moment où on est allé, ils étaient en train d'ouvrir deux écoles kurdes, plus un lycée kurde, avec, en fait, où ils suppriment complètement ce que l'État veut leur faire apprendre. Ils disent, oui, la religion et tout ça, ça n'a pas sa place. Du coup, ce qu'on voudrait, c'est l'artistique, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit du théâtre, du dessin, leur faire apprendre leur langue maternelle, à tous. Du coup, en fait, ça a été réprimé par l'État turc, mais il y avait ça comme questionnement. Il y avait aussi le questionnement des femmes, le truc qu'ils disaient, ou qu'ils disent encore, mais du coup, là, en ce moment, que c'est tellement bafoué. Mais leur croyance, c'était ça, c'est que tant qu'en fait, il n'y aurait pas la révolution des femmes, qu'il n'y aura pas de révolution. Donc, c'était comment la femme, elle reprend une autre place dans la société, et comment on rechange tous les fondements, en fait. Et c'était vraiment une période où, quand on est allé, on s'est dit « Waouh, quoi !» Une bonne claque dans sa gueule.
Et c'était peut-être cette effervescence-là aussi. Donc début 2015, c'était un moment où le mouvement était très fort et boosté par ce qui se passait donc au Rojava. Au Rojava, donc, c'est le Kurdistan du nord de la Syrie, quoi.
Ouais.
Et qui est un peu un territoire... c'est des zones autonomes...
Ouais.
Kurde, mais sans état, et du coup, et la victoire lors de la bataille de Kobané, où des combattants kurdes du Rojava contre les soldats de l'État islamique, et du coup, tout ce mouvement au Rojava, je pense que ça a pas mal boosté et le mouvement côté turc. À tel point que le régime turc l'a vu d'un mauvais œil et,
ouais.
et a commencé à partir de juillet 2015 à reprendre la sale guerre, comme ouais, ils disent, la sale guerre coloniale au Kurdistan turc.
C'est ça, parce qu'au moment où vous y allez là, la première fois, l'État turc est en pourparlers de paix avec, avec le mouvement kurde.
Soi-disant, en fait, c'était la période où on était, c'était du coup, il y avait le printemps, du coup, la grosse fête kurde, et juste après, en fait, il devait y avoir un rassemblement où il devait. Oui, il devait en fait justement faire cet accord de paix et la Turquie a refusé, Erdogan a refusé.
Ouais.
Et à partir de là, en fait, les copains là-bas, ils ont dit ouais, ça va chauffer.
Ouais.
Et parce que nous, on a des conditions, on veut dire en fait, si on y a cet accord de paix, il y a des conditions. Et en fait, là, la manière dont il a dit les choses, c'était on déclare la guerre, quoi.
Ouais.
Et à partir de là, voilà. C'est, ça fait tout un espèce de.
Et du coup, enfin, chamboulement. Pour compléter, cette effervescence du mouvement kurde. En fait, nous, on dit mouvement kurde parce que c'est en gros, c'est des millions de personnes qui luttent depuis des dizaines d'années.
Oui.
Voilà, après, il y a plein de... C'est assez hétérogène, il y a des contradictions, les gens ne sont pas tous d'accord sur tout,
ouais.
ils ne font pas la même chose, etc. Mais cette effervescence, moi, je pense qu'elle s'est aussi traduite dans le... Du coup, aux élections législatives, là, de juin 2015, dans le vote... HDP, donc ouais. Le parti pro-kurde, qui a fait 13 et quelques pourcents et qui dépassait pour la première fois la barre des ouais. 10%, ce qui lui permettait d'accéder au Parlement, d'avoir des députés qui étaient au Parlement. Et ça a été aussi quelque chose d'insupportable pour Erdogan. Ouais. Et,
qui se rajoute en fait, qui se rajoutait à Kobané, en fait, comme ouais. quoi. Il lui disait Kobané va tomber dans les mains de Daesh, vous inquiétez pas, Kobané va être gagné par Daesh. Genre, il était déjà ravi que, ça allait, que ouais. les Kurdes allaient perdre. Et là, plus le Rojava, plus ce qui était en train de se passer en Turquie, c'était trop, quoi, pour lui.
Ouais. Et tu disais tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, tu disais un peu, c'était le moment où tout commençait, tout arrivait. En même temps, ils sont en lutte depuis des dizaines d'années aussi. Qu'est-ce qui commençait en fait?
Mais là, c'était comme si c'était enfin en fait. C'est pas qu'est-ce qui commence. Ouais, c'est comment je m'exprimais. Mais dire en fait, c'était le commencement des choses où ils mettaient encore plus en action les choses. Tout se faisait en fait. Tout ouais. était. Enfin, si on laissait encore quelques années dans ce truc-là, c'était. Ça commençait en fait, ça commençait. Par exemple. Il disait en fait qu'il y avait plein d'assemblées en fait qui se mettaient en place, plus de 200 qui se mettaient en place au Kurdistan, et leur assemblée où il disait c'est pas simplement les chefs qui sont là, mais tous les gens en fait, les gens des quartiers, que ce soit en fait sur l'écologie, les femmes, l'éducation, tout ce qu'ils appellent en fait, ils appellent ça en fait le confédéralisme démocratique. Ils disent que c'est 10 pattes qui...
9
pieds.
Pas 10 pattes. Ah ouais,
9 pieds qui s'articulent et qui vont... Et voilà, c'est comme si en fait, voilà, on leur avait coupé...
Ouais, c'est toutes les thématiques principales un peu de la lutte qui ouais. se retrouvent dans ces 9... thématiques d'assemblée, quoi, un peu.
L'économie, l'écologie, les enfants, les femmes, le travail...
Le mouvement ouais. LGBTI.
Le mouvement LGBTI,
ouais.
La culture, enfin je sais plus tous les... Je me rappelle plus des 9 pieds.
Ouais.
Mais et après, en fait, pour comprendre ce truc-là, c'est vrai qu'on pourrait peut-être remonter un tout petit peu en arrière. Et en gros, depuis les années 1920, enfin depuis très longtemps, mais les derniers, enfin les premiers gros massacres de Kurdes dont on peut se rappeler, parce qu'ils sont pas très loin, c'était en 1920. Et à partir de là, ils se sont fait quand même attaquer et déboîter un certain nombre de fois. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se créent dans les consciences. Et puis à la fin des années 70, il y a le PKK qui se crée.
Parti des travailleurs du Kurdistan.
Voilà.
Ouais.
Donc très marxiste-léniniste. Qui crée un petit groupe de guérilla qui fera ses premières actions genre en 84. Et en fait, la particularité de... En fait, c'était des choses assez communes, hein, à la fin des années 70, début 80, partout dans le monde, il y avait des groupes un peu... des partis ouais. un peu similaires. Et la particularité au Kurdistan, c'est que ça a su ce PKK là, qui était un parti un peu straight, a su évoluer. Je sais pas pour quelle raison. Enfin, je sais pas si on va s'étendre là-dessus, mais a su évoluer parce qu'il y a un truc ultra, enfin, qui s'est massifié à fond. Et en fait, qui est maintenant, c'est une, le PKK, ça serait une galaxie avec plein d'organisations ou de groupes ou de, partis qui font partie du, de cette galaxie PKK. Et là, dans les dernières années, c'était vraiment le, avec le HDP, les élections, le Rojava, etc., le truc qui montrait que le mouvement il était de plus en plus dynamique et de plus en plus libertaire aussi, ouvert. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber la question de l'État-nation, qui était un truc qui était assez présent au départ, la lutte de libération nationale, etc., etc. Et avec des critiques de plus en plus globales. Et du coup, voilà, et du coup, tout ça n'a pas plu vraiment à l'État turc.
Et
je ne sais pas si...
Si, ouais, si tu avais des questions, sinon je me disais, on peut faire un peu la chronologie de... la chronologie un peu en déroulé.
Ouais.
Du coup, il y a eu les élections le 7 juin 2015 où le HDP a eu 13,4%, donc 80 députés. Et suite à ça, il y a des jeunes qui se sont... En fait, il y a des jeunes qui se sont réunis à Suruç. C'est une ville frontalière, en fait, qui est juste en face de Kobané. Et c'était des jeunes turcs, des jeunes kurdes qui se réunissaient pour une collecte. Ils avaient fait des collectes pour les enfants de Kobané. Et il y a eu un attentat. Et plus de 33 personnes en fait ont perdu leur vie là-bas. Et ce qu'ils expliquent en fait pendant cet attentat, c'est que les flics, ils ont commencé en fait à gazer pour pas que qu'en fait les gens viennent aider.
Empêcher les ambulances.
Ils ont empêché les ambulances. En fait, on avait été à Suruç, du coup, on a pu re-rencontrer ces gens-là qui étaient là-bas, notamment un copain qui s'était dévoué pour aller faire ambulancier. Il l'était pas, mais et puis il avait vu comment ça s'était passé, quoi. Et de là, ils ont capté qu'en fait le gouvernement était au courant de ce qui allait se passer. Mmh. Et à partir de là, la sale guerre elle a commencé.
Le PKK, quelques jours après, a revendiqué. Le fait d'avoir tué deux flics turcs,
ouais.
En disant c'était des flics qui faisaient partie, enfin qui étaient affiliés à l'État islamique.
Suite à l'attentat.
Juste dans le coin où, ouais. De Suruç, en disant bah là vous avez fait un attentat, on fait une représailles contre des flics qui sont très proches de Daesh et qui ont participé à l'attentat, etc. Ouais.
À partir de là, en fait, il commence à y avoir une grosse rafle d'arrestations. Ils font comme si, en fait, ils allaient arrêter des Daeshiens, mais en fait, ils arrêtent que les extrêmes gauches, les Kurdes. Et il y a, je crois, plus de 2000 personnes qui sont arrêtées pendant cette période-là. Du coup, en août, tu as des villes kurdes qui commencent à déclarer leur autonomie en disant « on veut plus que vous veniez nous chercher, on veut plus de vous chez nous » et ils commencent à barricader toutes les villes. Ensuite, si tu veux, j'en sais rien si tu veux intervenir sur ça.
C'est là que se met en place la co-gestion des mairies, que les assemblées en fait commencent à gérer un peu les villes.
Non, ça c'était déjà avant.
Ouais.
D'accord.
En fait, il y avait eu des élections municipales, je sais plus quand d'ailleurs.
Ouais. Où il y avait déjà les maires, les commères, ouais, HDP qui étaient déjà là.
Ouais. Okay. Voilà, tête de chaque
okay.
niveau d'instance, il y a et un mec et une femme. Du coup, à chaque fois, on parle de co-maire parce qu'ils sont deux de manière collégiale. T'en étais où ?
J'en étais là.
Donc oui, il y a un certain nombre de villes et de quartiers qui déclarent leur autonomie. Autonomie, ça veut dire défendre l'autonomie, les armes à la main, en faisant des barricades, des tranchées, et les jeunes des quartiers qui défendent physiquement, militairement l'autonomie.
Parce qu'en face, ouais, la répression est aussi militaire.
Beaucoup plus militaire.
Mais ouais. Et surtout quand tu vas en fait au Kurdistan, même s'il n'y avait pas eu tout ça en fait avant, c'est que la base militaire, elle est là-bas, quoi. Elle te surveille. T'as toujours des avions de chasse qui sont au-dessus de ta tête toutes les 10 minutes, 1 heure, 2 heures, je sais pas. Il y a tout le temps. Ces derniers temps, c'est beaucoup plus souvent, mais je veux dire, la présence militaire, la présence des flics, elle est tout le temps là, quoi.
Ouais.
On vous surveille, faites gaffe à vous, quoi.
Du coup, oui, déclarer l'autonomie, c'est aussi se mettre en rapport de force vis-à-vis de ça, quoi.
C'est ça.
Oui. Ouais.
Après, pour prendre une chronologie rapide, du coup, il y a un attentat à Ankara le 10 octobre 2015, du coup. C'était une manif, une grande manif pour la paix, parce que les gens sentaient que la guerre était en train de revenir. Et du coup, c'était des gens de gauche, mais t'avais aussi bien
des syndicats.
Des syndicalistes, des Kurdes, des groupes politiques turcs, un certain nombre. Même le CHP, là, l'équivalent du PS, qui est assez horrible. Enfin, qui est même assez. Qui est horrible ici et là-bas. Mais ils ont eu un certain nombre de leurs militants qui se sont fait tuer dans cet attentat. Il y a eu 102 personnes tuées.
Et ils ont fait la même chose, en fait. Les flics ont bloqué les routes, ils se marraient derrière, et puis ils continuent à jeter des bombes lacrymo, quoi.
Ouais.
Il y a plein de médecins qui disent qu'une partie la centaine de morts, là, ils sont morts d'asphyxie et de manque de secours, plus que de
l'attentat directement, quoi.
Voilà. Ouais.
Du coup, le 1er novembre, comme on disait tout à l'heure, il y a des nouvelles élections législatives parce qu'Erdogan n'est pas content des résultats du 7 juin. Et là, le HDP fait 10,7%. Donc ils ont quand même, ils passent quand même la barre des 10%.
Sachant que, excuse-moi, je rajoute que quand même ces élections se sont faites en mode coup de pression, en mode vous allez voter dans plein de villes au Kurdistan, vous allez faire en mode ouvert, vous allez ouvrir vos votes. Il y a des délégations françaises qui sont allées voir, ils ont halluciné, quoi.
Ouais.
Ils disaient aussi pour guetter, pour en fait il y a aussi des échanges d'urnes, des machins et tout ça. Mais en fait, et je pense qu'il a gagné parce qu'il y a eu du vol, mais et parce que pression de la terreur, quoi.
Ouais.
Du coup les gens ils se sont dit voilà, si on vote pour lui, il va arrêter de faire la guerre, quoi.
Ouais.
Il aura tout ce qu'il veut, donc qu'il nous lâche, quoi.
C'est pas vraiment ce qui se passe.
Non, pas du tout. Ça continue toujours de pire en pire, quoi. C'est taré, quoi.
Pour continuer le déroulé, le 3 décembre, donc il y a un an quasiment, le début du siège de Sousse. Sousse, c'est la vieille ville de Diyarbakir. Diyarbakir, c'est la capitale, un peu, entre guillemets, du Kurdistan, côté turc. C'est 2 millions d'habitants. Et Sousse, c'est la ville historique, avec une citadelle.
Ils disent que c'est le cœur du Kurdistan. Il y a une image vachement comme ça.
Ouais.
Et c'était une petite... Enfin, c'était plein de micro-ruelles, enfin, c'était un labyrinthe, un peu comme un souk, et avec des gens très pauvres qui habitaient là. En fait, c'est les personnes les plus pauvres qui sont les plus actives aussi dans le mouvement.
Du coup, le siège par l'armée turque, là
Le quartier, il déclare son autonomie aussi.
Ouais.
Et les forces spéciales turques font le siège pendant 103 jours. Ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Donc, il y avait des camarades... là-bas qui écrivait, à un moment ils avaient fait un texte un peu adressé aux Français.
Ouais.
Ils disaient oui, la Commune de Paris, c'était bien, c'était il y a longtemps, nous on essaie de faire un peu la même chose, mais vous avez tenu 72 jours, nous on est déjà à 95 jours, ça serait bien de filer un coup de main.
Et du coup, là ça, vous retournez par là-bas, à ce moment-là, à peu près.
Ouais,
ça,
c'était le septième jour du couvre-feu à Sousse.
Ouais.
Nous, on arrive au début. Et ils ont fait une pseudo... ils ont enlevé genre le couvre-feu d'une journée. Ils disaient, les copains, ils disaient, c'était juste pour aller voir, en fait, ce qui se passait de l'autre côté, aller voir vraiment... pouvoir passer les rues et aller voir où en fait les camarades pouvaient se cacher et pouvoir mieux les attaquer. Et en fait, on est rentré dedans, mais c'était un vrai guet-apens, quoi. C'était contrôle dans toutes les rues, on nous a suivis, on nous a demandé de nous casser, on nous a dit qu'est-ce que vous foutez là, on va vous emmener au truc antiterroriste, vous allez voir.
Ouais.
Et voilà pour ce truc-là.
Et du coup, le siège là, il a duré 103 jours. Et du coup, c'est à ce moment-là où il y a plein de enfin, les forces spéciales turques assiègent un certain nombre de villes et de quartiers à travers le Kurdistan. Et avec... les gens résistent plutôt pas mal. Même a priori, côté pertes militaires, ils en perdent beaucoup plus côté turc que kurde. Mais il y a un coup social très fort. qui fait que un peu plus tard, en mai 2016, là, les groupes d'autodéfense des quartiers, tout ça, décident d'arrêter de tenir, enfin, de résister au siège.
Parce que les gens se retrouvent en fait avec plus d'habitations, tout a été complètement rasé, quoi.
En fait, la politique des forces spéciales, c'est de bombarder les quartiers et les villes. Et après, même en, je crois que c'est en mai, l'État, il bombarde Nusaybin, c'est une petite ville. Les gens, c'est un bastion aussi. Et là, ils bombardent avec les avions de chasse parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer avec les tanks.
Mais toute cette période-là, ils font des trucs vraiment très sordides où, à Djizray, ils brûlent des gens vivants dans des caves avec des enfants, des femmes, des vieux. Et ils essaient de masquer ça auprès de l'Europe. Mais c'est hallucinant parce qu'il y a plein de gens qui racontent, quoi. Et c'est méga trash.
Et du coup, la politique aussi, je pense, générale, c'est de... Bon, une fois que les sièges ont été brisés, en fait, c'est de maintenir le couvre-feu et de raser avec des pelleteuses tous les quartiers qui avaient été un peu endommagés, enfin, qui avaient été pilonnés, bombardés, machin. Les raser, et là, il y a des photos qui sortent régulièrement. Il y en a des photos de Nusaybin qui sont sorties il y a une semaine. Le couvre-feu a été enfin levé. Et tout a été rasé. Les pelleteuses, elles ont tout...
Ouais, d'accord.
C'est comme un énorme terrain vague, ils ont juste gardé la mosquée avec le drapeau turc dessus.
Oui, ça aussi, ils aiment bien faire ça pendant qu'ils occupent. En fait, ils adorent mettre plein de drapeaux partout.
Ouais.
Plein de drapeaux turcs.
Et ça, c'est des villes de 400 000 habitants. Enfin, c'est des grosses villes.
C'est pas des petits villages, quoi.
Ouais. Et ce qu'ils veulent faire aussi à Soul, c'est récupérer la... Comme ils savent qu'en fait pour les Kurdes c'est hyper important, ils disent bah, on va récupérer cet endroit là, on exproprie. Maintenant ils ont exproprié ce lieu là, ils disent qu'ils vont installer leurs immeubles et qu'ils vont mélanger, qu'ils vont voir ce qu'ils vont voir.
Tout un business de construction aussi, du coup derrière, on rase tout pour revenir.
Il y a une boîte de BTP là qui a le monopole en Turquie, enfin qui est une boîte semi-privée, semi-publique.
Ouais.
Bah, c'est les potes d'Erdogan et ils bétonnent à fond partout dans toute la Turquie. Et là, c'est eux qui sont pressentis naturellement pour aller faire des gros pâtés de béton. Mais bon, c'est pas encore fait. Et après, là, on dit tout ça, donc c'est un peu trash, mais les gens continuent même si c'est dur, ils continuent à lutter et ils baissent pas.
Et pendant cette période-là, du coup, nous, on était aussi dans ces manifs-là, pas mal. Où les gens s'organisaient, où il y avait plusieurs manifs dans la journée, dans plein d'endroits de la ville à Diyarbakir.
Ouais.
Tout à l'heure, tu posais la question.
Ouais.
Du coup, c'était juste pour dire aussi ce qu'on a vu là-bas. Pour le deuxième voyage en décembre, en plus de voir les couvre-feux, il y a les manifestations. Et pendant ces manifestations-là, en fait, il y avait pas mal de... Comment dire ? Pour essayer de démotiver les gens à sortir, les forces spéciales tuaient deux jeunes parmi les manifestants. Donc à chaque fois qu'il y avait une manifestation, tu savais qu'il y avait deux jeunes qui allaient se faire tuer, quoi.
Ouais, d'accord.
Mais ça continuait quand même. Il y avait des fois où on était 500, il y avait des fois où on était des milliers.
Ouais.
C'était assez hallucinant quand même comme ambiance. Mais voilà.
Et puis t'as les enfants qui participent au... L'enfant de 7-8 ans qui balance des bouteilles ou des pavés, qui dépavent.
Ouais, d'accord.
Des petites filles qui, de 10 ans qui dépavent et qui balancent des pavés sur les canons à eau, sur les tanks, machin.
Ouais.
Mais ça, c'était il y a plus d'un an. Voilà, il y a un an.
Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale avant d'aborder la suite?
Ouais, bah après, on peut peut-être parler de ce qui s'est passé depuis le... Le mois de juillet, le putsch raté.
Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute celle d'Abadjan, Inje Inje Be Your Dream.
C'est parti.
Yeah.
Et voilà. Et du coup, on revient sur la discussion avec nos amis de Nevarneyok. On en était au mois de juillet 2016 et le coup d'État manqué contre le président Erdogan. Qu'est-ce qui se passe à partir de là ?
Bah déjà, nous, on n'était plus là-bas et puis on est parti en depuis. Du coup, c'est plus par rapport à ce qui nous parvient qu'on arrive à en dire un peu quelque chose. Du coup, il y a un putsch raté, là, le 15 juillet 2016. A priori, donc, lancé par les Fethullahgil, les gulenistes. Donc, c'est-à-dire les partisans de Fethullah Gulen, qui est un concurrent...
Ancien ami d'Erdogan.
Voilà, un ancien ami, mais un concurrent, enfin dans la fraction bourgeoise concurrente à la tête de l'État turc, et qui est pas mieux qu'Erdogan, hein, qui est un bon cramé aussi. Et du coup, ça rate leur truc, et Erdogan, il en profite pour faire un truc d'union nationale contre le terrorisme, etc. Et très rapidement, il y a des grosses purges du côté des Fethullahgil présumés, avec plein de militaires, de flics, de juges qui seront arrêtés, qui seront enfermés. Il y en a qui aussi. D'universitaires, il y en a qui se font tuer, etc. Même le jour même. Et là, il arrive à faire aussi un truc, à appeler les masses. Turc nationaliste, islamiste, à descendre dans la rue et à tenir la rue, enfin les espèces de partisans, quoi, et à chasser, à traquer les gens, voire les tuer direct. Donc ça sent pas très bon. Et après ça, il y a eu les purges contre les gulenistes là, pendant, je sais pas, peut-être un mois, et après, depuis, un gros paquet contre les Kurdes.
Ouais.
À fond dessus, on a quelques chiffres.
Là, qu'on a chopé sur une vidéo de France Info, où ils n'expliquent pas vraiment tout, mais bon, on va dire quand même les chiffres. Ils disent donc qu'il y a, après 4 mois après la tentative du coup d'État, la Turquie s'est enfoncée dans la répression. Donc 50 000 personnes ont été arrêtées, 110 000 personnes suspendues ou renvoyées, 19 universités fermées, 1000 écoles fermées. Au niveau éducation, 28 000 fonctionnaires, enseignants et universitaires licenciés. Au niveau justice, 3 400 magistrats démis de leurs fonctions. Au niveau de l'armée et de la police, 4 500 militaires limogés, près de la moitié des généraux et amiraux de l'armée mis à pied, 12 800 policiers renvoyés. Au niveau de la presse, il y a plus de 170 médias fermés, 200 journalistes turcs arrêtés. Politique, une dizaine de responsables et de députés du parti d'opposition pro-kurde HDP arrêtés. Économie, 500 entreprises dont les biens ont été confisqués. 1200 organisations caritatives fermées. 370 ONG suspendues. 19 syndicats fermés. Dans ces chiffres-là, en fait, ce qui manque vraiment aussi, c'est tout ce qui s'est passé par rapport à tous les militants kurdes, puis tous les militants de gauche qui sont en prison et qui ont été torturés, massacrés et tout ça, quoi.
Ouais, que des gens qui n'ont pas forcément un statut officiel de fonctionnaire ou de professeur ou de journaliste.
Parce qu'ils préfèrent pas vraiment dire qu'il y a cette problématique kurde qui est là depuis plus d'un an et que la Turquie part vraiment en vrille de plus en plus depuis ce moment-là, quoi.
Voilà, et après ces chiffres, effectivement, bon, ils parlent un peu d'eux-mêmes, mais là, maintenant, l'accent il est vraiment mis par l'État turc sur le mouvement kurde et sa destruction, enfin en tout cas tenter de le détruire, le mouvement civil du coup.
C'est ça, parce que les gulenistes, on n'en parle plus trop en fait, là.
Non,
vraiment les Kurdes, quoi.
Ouais. Et là, par exemple, il y a eu un certain nombre d'arrestations de députés, de maires, enfin en fait c'est tous les jours là, depuis un mois et demi. Il y a une trentaine de mairies qui étaient HDP au Kurdistan, qui ont été mises sous tutelle de l'État turc. Donc voilà, tous ces gens sont arrêtés. Il y a tous les médias kurdes, les médias du mouvement, ils ont tous été suspendus, que ce soit radio, journaux, télé. Il y a aussi l'histoire là, avec Eutelsat, qui est une entreprise française et qui fait de la retransmission par satellite de télé privée, qui a coupé, sur pression de l'État turc, qui a coupé des chaînes de télé kurdes.
Ok.
Donc ça, c'était, y a des gens qui se bougeaient là-dessus à Paris pour essayer de remettre ça en place. Il y a des groupes de musique aussi qui sont en prison, des groupes de musique un peu trop révolutionnaires, mais des groupes de musique archi connus, quoi.
Ouais.
Et etc. Donc ça, moi je pense que c'est un point, détruire le mouvement kurde. Un autre point, c'est l'armée turque, elle a envahi le nord de la Syrie.
Ouais.
Un bout entre deux cantons du Rojava, là.
Donc c'est coupé un peu.
Voilà. Et puis du coup, ils pilonnent les cantons du Rojava, ils pilonnent Kobané, Efrin, enfin ils attaquent régulièrement. Voilà. Ils sont présents aussi à Mossoul. Ils ont essayé de se glisser dans la coalition de Mossoul, mais ils n'ont pas réussi. Mais du coup, en lien avec Barzani, qui est le responsable du Kurdistan irakien, qui est un truc pro-capitaliste, machin. En tout cas, l'armée turque essaye d'enserrer le Rojava aussi.
Ouais.
Et le troisième truc, donc détruire le mouvement civil, l'invasion militaire, le Rojava. Bon, après, ils pilonnent aussi toutes les positions de la guérilla dans les montagnes côté turc. Et après, c'est aussi faire, du coup, organiser un blackout médiatique.
Ouais.
Tout Twitter, Facebook, tout est coupé. Tous les médias, ils n'existent plus, il n'y a plus de journaux, il n'y a plus rien. Tous les journalistes, ils sont en prison. Les journalistes kurdes du mouvement, ils sont en prison. Et l'autre truc, c'est casser les forces matérielles du mouvement, donc les villes en les rasant. Et après aussi, ils coupent même des transferts d'argent de la diaspora, par exemple, ou d'Europe, à des associations de soutien aux habitants de Djizre qui n'ont plus de maisons parce que tout a été détruit. Donc il y avait des associations officielles, enfin des... Et tous ces trucs officiels ont été... Western Union les coupe sous demande de l'État turc. Du coup, c'est casser les forces matérielles aussi du mouvement, précarisant un maximum les gens, pour que ça fasse... je sais pas, je pense que la tentative, c'est essayer de faire exploser le mouvement, mais je pense... on verra ce que ça donnera. Mais là, on en est là aujourd'hui.
Et en ce moment, en fait, même la présence de personnes qui viendraient d'étrangers, c'est pas bien vu. Donc, soit ils se font très vite arrêter, soit ils se font très vite renvoyer chez eux.
Ouais.
C'est compliqué en ce moment d'y aller, je crois.
Il y a eu notamment un journaliste là, récemment qui enquêtait par là-bas et qui s'est fait rapatrier vite fait.
Et suite à lui, en fait, il y a encore 3-4 personnes qui se sont fait arrêter, qui venaient aussi... un peu qui se retrouve en fait du côté kurde, quoi. Si tu te retrouves du côté kurde à essayer de capter les choses, en fait c'est ce qu'ils disaient aussi, la présence, en fait ils disent que le couvre-feu a été enlevé dans plein de villes au Kurdistan, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de militaires, de présence militaire et policiers sur place, quoi.
Ils sont là, quoi.
Et aussi, on voulait parler de la nouvelle loi là qu'ils ont voulu pondre. Cette loi bien dégueulasse a gerbé sur le projet de loi sur le viol, sur les mineurs en fait, qui seraient, comment dire, acceptés à partir du moment où le violeur se marie avec l'enfant. Du coup, ça demande pardon, quoi. Du coup, ça fait une grosse réaction du côté des meufs et des femmes en Turquie. Du coup, ça fait plein de manifestations, plein de... Et ça continue encore. Et ce matin, on disait que le ministre, après réflexion, peut-être qu'il ferait mieux de retirer cette loi et de voir plus tard ce qui se passerait. Mais là, en fait, les femmes et les gens, en fait, continuent d'être dans la rue et de dire que...
Moi, je sais pas s'il parlait de retirer la loi, mais
reformuler,
quoi, d'améliorer, de dire que, ah oui, c'était peut-être pas très bien, alors on va faire ça mieux.
Comme les ministres ici qui... Ils reformulent parce que les gens n'ont pas compris.
Ah ouais, j'avais pas lu reformuler.
C'était un effort de pédagogie.
Voilà.
Ouais. Et non, ce matin, les meufs, elles étaient encore dans la rue.
Et du coup, vous avez des échos un peu de la lutte là-bas, malgré tout ce blackout total. Est-ce que les gens continuent à se battre sur place Enfin, tu disais, on ne sait pas trop où ça va mener, mais enfin, voilà, est-ce qu'il y a quand même des perspectives un peu ou...
Vas-y, ouais.
Bah, comment dire
Pour ce qui est de l'information, il y a un certain nombre de médias sur Internet, des médias kurdes, qui sont régulièrement traduits aussi et compilés dans des... Là, il y a un petit bulletin auquel on participe avec d'autres amis, là, qui s'appelle Merhaba et Valno. C'est un bulletin mensuel.
Ouais.
Et en fait, c'est essentiellement des traductions de sites d'info ou d'analyse kurdes. Du coup, sur Internet, voilà, il faut traduire. Souvent, c'est en anglais, des fois, c'est en turc ou en kurde.
Il y a Kédistan aussi qui continue à...
Il y a le site Kédistan, kédistan.net, qui fait pas mal de traductions, qui alimente beaucoup.
Sur lequel vous pouvez télécharger ces brochures-là aussi. Et vous pouvez télécharger aussi sur notre blog. Et à imprimer vous-même, à diffuser vous-même.
Donc ça, c'est pour l'information. Après, c'est beaucoup plus... Enfin, là, le blackout médiatique, c'est plus pour là-bas, moi, je pense, qui tentent de l'instaurer.
Ouais.
Bon, après, les gens bidouillent, ils utilisent des outils Internet pour naviguer anonymement. Ils arrivent à aller sur des sites et tout ça, mais tout est plus compliqué. Et puis surtout, tous les journalistes militants, activistes là, qui faisaient ça, ils se font enfermer, du coup.
Ouais.
Moins d'informations.
Mais en tout cas, les échos qu'on a de là-bas, c'est il y a comment dire, il y a beaucoup de pression. Ils sont pas sereins, ils sont flippés. Mais après, l'autre truc qu'on entend aussi, c'est que ouais, mais on lâchera pas l'affaire et on garde encore espoir et on lâchera pas l'affaire. Donc tu te dis ouais, c'est bon. En vrai, ce que j'aimerais, c'est aller voir de mes propres yeux et capter les gens et vraiment donner un avis, mais ça continue de bouger, quoi. Mais même si on n'a pas d'écho, ça continue de faire du bruit. Et...
Ouais.
Et peut-être la différence avec nous ici, c'est que les gens là-bas, les camarades, ont une vision beaucoup plus étalée au niveau du temps. C'est-à-dire...
C'est une lutte qui dure depuis un moment.
Voilà,
aussi,
beaucoup, et ils disent que c'est une lutte qui durera encore un moment, et du coup... Là, il se passe des choses difficiles et tout ça, mais ils ont une vision sur 50 ans, par exemple.
Ouais.
Et pas sur...
Pas sur 2 mois, quoi.
Pas sur 2 mois, comme nous, on a un peu plus l'habitude de le faire. Et puis, de toute façon, l'État turc n'arrivera jamais, selon moi, à finir avec le Kurdistan. Et vraiment, il n'arrivera pas par la force et par d'autres moyens, je pense pas.
Ouais.
Mais...
Et comme on va rendre l'antenne dans pas longtemps, c'était juste pour refaire un petit rappel de... Bah, vite fait encore...
Le blog et tout. Ouais. Peut-être on s'écoute une dernière chanson, puis on revient après pour dire un peu tout ça.
Ça
c'était quoi la dernière chanson, du coup?
C'était une chanson de Koma Awazé qui s'appelle Biji Biji Yepégué.
Ok, on écoute ça.
derviş usu varan. Zikin şerri turan an harb alhem der muglajiyan.
Zikin şerri turan an harb alhem der muglajiyan. Hazır var azvanin gel. Dişi dişiye, hege dişi dişiye, hege.
Et voilà un peu de musique tonique pour finir.
Tout à
c'est
fait.
Cool. Donc on va rappeler les adresses. Donc il y a Nevarneyok.
Donc c'est nevarneyok.noblogs.org.
Ouais.
Ensuite il y a le site de Kedistan où vous avez plein d'infos aussi. C'est kedistan.net. Et le journal du Merabah et Valno que vous pouvez soit trouver à Terra Nova, soit vous pouvez vous l'imprimer vous tout seul et le diffuser, voilà. Sinon aussi sur la table de presse à la chapelle le lundi soir. Et aussi vous donner aussi la dernière info, c'est que j'ai vu aussi que ce soir sur Arte il va y avoir un documentaire qui passe, je sais pas du tout ce que ça donne, qui s'appelle Erdogan, l'ivresse du pouvoir, à 20h30 je crois.
Ok. Et le livre du coup.
Et le livre, du coup, Cyril Dan, le soulèvement au Kurdistan, édité chez Niet Édition, donc on peut, il se trouve dans pas mal de librairies, à Terra Nova aussi, par exemple. Et autrement, on peut le commander en direct en ligne là, sur le site, c'est Niet, Niet-édition au pluriel, .fr. Et voilà.
Ok. Eh ben c'est super. Merci beaucoup d'être venu.
Merci, à,
merci
toi.
À toi, merci à vous.
Merci à vous.